cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 12 octobre 1995.
Tandis que le jugement me fait saisir ce qui est commencer. Et ça met du temps. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça met beaucoup de temps. La philosophie, comme l'amitié, demande du temps. Parce que on est ainsi fait, qu'on est d'un paresseux de cancre au plan métaphysique. On a de la peine à creuser. Et il faut aller jusque-là pour atteindre la sagesse. Vous dites que le choix de l'ami est libre, mais ne dépend-il pas de mon conditionnement ? Voilà, oui. Le conditionnement ne supprime pas la liberté. Sauf si je suis très fatigué. Mais je ne fais pas la philosophie de la fatigue. Je pourrais faire la philosophie de la fatigue en nota bene. En nota bene. Si toute l'humanité est fatiguée, la philosophie meurt. Je jure. On a une culture d'hommes fatigués actuellement. C'est pour ça qu'on dégringole. On plaide le dégringolement. Et c'est vrai, ça. Mais je fais la philosophie de l'homme. Mais l'homme fatigué, c'est l'homme fatigué. C'est pas l'homme tout court. Je n'établis pas la fatigue comme mon état normal. Quand vous dites « je suis fatigué », vous dites « je n'ai pas tous mes moyens ». Je le sens bien, je pourrais aller plus loin, je suis fatigué. Alors je me repose pour retrouver ça. Alors est-ce que vous vous reposez pour être fatigué? Ou est-ce que vous dépassez la fatigue pour avoir un état plus actuel? Mais quand on est fatigué, la potentialité augmente. Et donc le conditionnement augmente. C'est pour ça que la psychologie est née d'une culture fatiguée. Ah ça c'est sûr. Les saints ne font pas de psychologie, quoi. Il y en a beaucoup de fouet. Allez, va, ma vieille bête. Et puis, il dépasse pour le conditionnement. Tandis qu'au contraire, celui qui est fatigué dit « Ah, ma pauvre vieille monture, il faut la garder encore, parce qu'elle va mourir autrement. Et on pleurera sur elle. Alors on la soigne, on la caresse. On lui dit... Ouais, très bien ça. Alors par exemple, il vient du même milieu social que moi. Il aime les mêmes choses que moi. Et par le fait même, je choisis à travers mon conditionnement. Oui, mais quand vous aimez, vous ne regardez pas le voisin. Est-ce que vous aimez parce que l'autre aime? Ah, il faut que j'aime parce qu'à côté de moi, il aime. Oui, je suis en retard autrement. Non. Quand j'aime, je m'en fiche pas mal de ce que les autres pensent. C'est pour ça que c'est si difficile à redresser l'amour. Quand quelqu'un a un coup de foudre, qu'il écoute sa grand-mère, il dit « Mais non, tu n'es pas de ce temps, mais tu sais pas ce que c'est que l'amour. De ton temps, on se mariait selon le conditionnement familial. C'était le mariage de famille. Maintenant, non, on a dépassé ça, on est bien plus intelligent. » Ah ouais, voilà. Quand vous aimez, vous dépassez le conditionnement. Et ça, c'est vrai. Tandis que loucher, vous voyez, c'est déjà regarder le voisin. Et qu'on regarde le voisin, on n'aime plus. Ça, c'est sûr. À deux, qu'un a cessé d'adorer quand il a louché sur Abel. Il a cessé d'adorer, il a louché. Et, tandis que quand on adore, on est seul en face de Dieu. L'univers peut crouler, je suis seul avec Dieu. Et c'est ça qui explique le martyr. On est seul avec Dieu. C'est ça le dépassement du conditionnement. Et Et donc, je ne suis pas libre, en quelque sorte. C'est très vrai, vous voyez, c'est pour ça que les psychologues aboutissent à dire qu'il n'y a aucun acte libre dans la vie. C'est votre conditionnement. Vous êtes entré à Saint-Jean selon votre conditionnement. Vous avez rencontré un Jean-Baptiste qui vous a conditionné. La vocation de Saint-Jean, mais ce matin, c'est le conditionnement. C'est Jean-Baptiste qui lui a dit, mais oui, va là-bas, c'est mieux. Et Jean n'a écouté que son maître. Il n'avait aucun amour particulier pour Jésus, mais non, il a écouté son maître. Conditionnement. Et alors vous avez très vite une race abrutis. De gens qui vivent uniquement sur le conditionnement. Et ça va vite, vous savez, ça va très vite. Parce que l'abrutissement va plus vite que la sagesse. Dès qu'on dégringole. Alors ça c'est très très important, vous voyez, conditionnement et l'amour, hein, tout de suite. Le conditionnement se situe au niveau du choix, mais quand on choisit, on dépasse le conditionnement, parce que l'amour est présent. Si l'amour n'était pas présent, conditionnement, alors le psychologue ne voit pas cet amour, il ne regarde que le conditionnement. Alors il explique tous les choix par le conditionnement. Ça, c'est très très important à saisir dans notre vie. Parce qu'en fait, tout le noviciat consiste à retrouver un amour premier du Christ. Un contact personnel, une rencontre personnelle avec Jésus. La vocation, c'est ça. C'est la vie chrétienne. On l'appelait chrétien, on appelait les chrétiens chrétiens parce qu'ils étaient du Christ. Parce qu'ils étaient reliés à Jésus au milieu de toutes les bagarres. C'était ce lien avec Jésus qui était l'essentiel. Donc un dépassement de la loi. Alors, dernière petite remarque. En lisant l'évangile en philosophe, puis-je réellement découvrir une nouvelle finalité distincte de l'éthique religieuse? C'est très juste comme remarque, hein. Je suis tout à fait d'accord. Le propre de la révélation n'est-il pas de nous dire que nous sommes faits pour voir Dieu? C'est le propre de la foi et de la révélation. Or cela nous est donné dans la foi. Le statut de l'éthique chrétienne est un statut qui ne peut exister et entrer en philosophie que si j'ai d'abord découvert une première éthique philosophique. Oui. Le philosophe ou l'homme tout court, donc qui n'est pas encore philosophe, qui lit l'évangile, dira: il y a quelque chose d'inconnu chez le chrétien. D'où vient cette force du martyr? Vous voyez le témoignage. Le témoignage. On témoigne. Mais quand on témoigne, pour celui qui témoigne, c'est quelque chose de vivant. Mais pour celui qui est à côté, ce n'est pas vivant pour lui. Sauf s'il a fait la même chose. La même démarche. S'il n'a pas fait la même démarche, c'est un inconnu. Socrate qui prend la ciguë, pour moi, qui regarde ça, je n'aurais pas fait ça. Parce que je dirais, les lois civiques ne méritent pas ça. Mais pour Socrate, ça méritait ça. À cause d'exemple pour les jeunes. Pour ne pas montrer que les lois civiques sont relatives. C'est vrai. Avez-vous le droit de prendre la ciguë? Par respect des lois. Vous allez me dire, ça dépend quelle loi. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça dépend quelle loi, ça prouve que vous avez dépassé la loi. Et que vous avez saisi qu'il y avait la personne humaine qui est au-dessus de la loi. De la loi légale. Comment pouvez-vous juger telle loi? Pas béatitude. Autrement, vous suivez l'exemple de certains qui sont pour vous des modèles. C'est très bien au point de départ. C'est très humble au point de départ. On reconnaît qu'on ne peut pas, qu'on a besoin d'un tuteur. On sait que c'est un tuteur. Et on sait que pour lui, il a rencontré quelqu'un. Et alors, en raison de l'amitié, je peux le suivre. Et c'est une position très noble et très grande. On reconnaît humblement qu'on n'est pas encore, mais on est sur la voie, puisqu'on suit quelqu'un qui lui connaît. C'est ce que fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un témoin merveilleux. Voici l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Jean-Baptiste a eu cette connaissance du Christ au désert, dans le silence. Les disciples de Jean-Baptiste ne l'ont pas eu. Mais comme Jean-Baptiste était leur maître, cause exemplaire, ils s'en suffit. Ils ont fait un acte héroïque, sans avoir l'expérience du Christ. Ils l'ont eu après. Maître demeure-tu. Oui, c'est le désir d'avoir l'expérience directe du Christ. Si on demeure avec lui, on saura qui il est. Et il y aura ce contact direct avec lui. On peut entrer dans la vie religieuse sans avoir eu l'expérience du Christ. Mais il y a eu des causes exemplaires. Il y a eu des Jean-Baptiste qui se sont dit « Ah, là !» Et on a eu le désir. Et à travers le noviciat, progressivement, on découvre l'expérience propre. Alors, voyez, je suis tout à fait d'accord que celui qui n'a pas la foi, qui est purement philosophe et qui lit l'Écriture, découvre quelque chose, un événement qui dépasse. Il y a eu dans l'histoire un homme qui s'est présenté comme un maître devant tout ce qui était d'avant. C'est bien ce que représente Jésus. Il est l'achèvement de la loi. Et c'est toujours, hein, regardez les disputes, c'est toujours par rapport à la loi. Tu es au-delà de la loi. Si tu es au-delà de la loi, tu es contre la loi. Non. Je peux être au-delà de la loi sans être contre la loi. Comment résoudre le problème? Être au-delà de la loi sans être contre la loi. Intéressant, ça c'est philosophique. Je dis, on peut être au-delà de la loi, sans être contre la loi, si on reste humain. La loi est pour l'homme. Et donc, si ce qu'on me dit qui est au-delà de la loi, n'être pas contre la loi, ça prouve que c'est humain, au sens le plus profond. Jésus fait découvrir à l'homme un surhomme. Philosophiquement, si je suis après Nietzsche, c'est ce que je dirais. Il fait découvrir à l'homme un surhomme. Quelque chose qui est au-delà de ce qui est normal pour l'homme. Prenez dans un milieu qui n'est pas chrétien, ou qui est chrétien de tradition, de pratique chrétienne. La vie religieuse vient être au-delà de la famille. Elle n'est pas contre la famille, mais elle est au-delà de la famille. Pour celui qui n'a pas compris le lien personnel avec le Christ, dira facilement la vie religieuse est contre la famille, puisque elle n'achève pas la famille. Et la famille est faite pour être achevée. On dira non. La famille, elle est pour la personne humaine et pas pour la famille. Quand la famille est pour la famille, c'est comme le peuple d'Israël qui lui voyait le peuple d'Israël qui devait continuer. Le peuple d'Israël était pour l'adoration de Dieu. Et l'adoration de Dieu dépassait le peuple d'Israël. Autrement, ce ne serait plus Yahvé. Je me souviens, très beau du reste. C'était sitôt la guerre. Une fille dont le père était rabbin. Et le père était âgé. Et elle avait découvert Jésus. Alors elle m'a dit comment elle avait dit à son père qu'elle avait découvert Jésus. Elle avait des frères et sœurs qui ne croyaient plus à rien du tout, qui partaient dans tous les sens. Alors elle s'est jetée dans les bras de son père en lui disant « Merci père de m'avoir découvert Dieu. Et je le découvre maintenant d'une manière étonnante parce que je le découvre de l'intérieur par la révélation même que Dieu s'est faite en nous donnant son Fils. Je te prolonge. Je suis entièrement avec toi. Mais grâce à Dieu, je vais plus loin. » J'ai trouvé ça très beau. Elle a dit, tu vois, mes frères et sœurs, eux, n'ont pas découvert. Alors, ils ne sont pas fidèles à Dieu. Mais moi, je suis fidèle à Dieu, à ton Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui. Et je crois que c'est ça, la philosophie chrétienne, l'éthique chrétienne, en philosophe. C'est de voir qu'il y a un dépassement qui n'est pas contre l'homme. Ce n'est pas de l'apologétique. C'est d'entrer dans ce dépassement que je ne comprends pas entièrement. Je ne le comprends pas de l'intérieur, autrement j'aurais la foi. Mais je le constate. Et je dis, ce dépassement ne détruit pas ce qu'il y a de plus profondément humain. Oui. Autrement, il n'y aurait pas possibilité d'une philosophie, d'une éthique chrétienne en philosophe. Le philosophe, lui, regarde l'homme. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre l'éthique fondamentalement humaine qui repose sur l'amour d'amitié, l'éthique religieuse qui repose sur l'adoration et l'éthique chrétienne? S'il n'y a pas de lien, je ne peux pas parler d'éthique chrétienne en philosophe. Il y a des fous qui sont des chrétiens. Mais la philosophie, la sagesse philosophique, non, est jetée à bord, elle est méprisée. Si au contraire, je peux découvrir dans un regard philosophique que le chrétien qui suit Jésus reste parfaitement homme, le christianisme ne détruit pas l'amitié. Le christianisme ne détruit pas l'adoration, mais fait que l'adoration et l'amitié sont vues dans une lumière nouvelle que j'ignore, que je n'ai pas. Ce que les chrétiens appellent la foi. Mais de fait, ce qui leur est révélé n'est pas contraire à ce qu'il y a de plus authentiquement humain, c'est-à-dire à la personne humaine. Oui, là il y a un effort philosophique qui pour moi n'est pas apologétique, qui reste philosophique dans la ligne qu'est-ce que c'est que l'homme, et qui me montre qu'il y a un dépassement. Je ne sais pas exactement ce qu'est ce dépassement, puisque je n'ai pas la foi. Je fais appel à mon intelligence. Je vois donc de l'extérieur ce dépassement. Je ne peux que le détruire. Je ne peux que le décrire. Et c'est vrai, à ce point de vue-là, l'éthique chrétienne, vue en philosophe, n'est plus philosophique. Mais elle prolonge la philosophie. Mais elle n'est plus philosophique, puisque je n'ai pas la saisie d'un nouveau principe. Mais je dis, ce principe existe. Il n'est pas pour moi, mais pour certains, il existe. Leur foi leur donne un nouveau principe. Et je respecte. Je dis, je sais que Dieu existe. Je ne connais pas ce qu'il est, mais je sais qu'il existe. Et ça me suffit pour le contempler. Je sais qu'il existe des chrétiens qui se disent disciples du Christ. Je sais qu'il y a pour eux une révélation qui pour eux est divine. Quel est le contenu de cette révélation? Quelle est la conduite de ces chrétiens? Est-ce que cette conduite est anti-humaine? Ou est-ce que cette conduite reste supra-humaine? Et le supra-humain ne détruit pas l'homme, mais au contraire lui permet d'expliciter des choses qui sont surhumaines. Et alors je crois que là, il y a quelque chose de très important dans notre monde d'aujourd'hui à montrer. Et c'est ça que j'appelle l'éthique chrétienne vue d'un point de vue philosophique, qui est dans le prolongement de l'éthique fondamentalement humaine et de l'éthique religieuse, qui en est comme l'achèvement. Et j'arriverai presque à dire que si ça n'existait pas, il faudrait que ça existe. Au point de vue philosophique, cette aspiration d'un Nietzsche, du surhomme, je veux dire, mais il est là. Et Nietzsche a eu cette aspiration du surhomme parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas se développer parfaitement comme homme en restant uniquement à un niveau commun, habituel. Alors s'il avait été parfait, Nietzsche aurait dit, ce surhomme, ce n'est pas moi qui peux le faire. Si Dieu existe, c'est une grâce de Dieu. C'est ce que dit le philosophe qui regarde le christianisme en tant que philosophe. Il sait que c'est une grâce de Dieu. Je ne peux pas, par mes propres forces, être chrétien. Mais je peux constater que le chrétien qui est vraiment chrétien respecte parfaitement et totalement l'homme et qu'il le dépasse et qu'il a une intelligence de l'homme qu'aucun homme purement philosophe n'a. Et donc je le respecte. Donner le sens du respect de l'éthique chrétienne à quelqu'un qui cherche la vérité. Je crois que c'est un des aspects très importants de notre monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on essaie de faire, que je voudrais faire avec vous. Parce que je ne peux pas vous envoyer un livre qui a fait ça. Je vous montre simplement que cela, il y a des moments de recherche dans l'Antiquité. Les philosophes qui regardent la mort de Socrate et toute l'éthique stoïcienne repose sur la mort de Socrate. À titre d'exemple, non pas à titre de finalité, mais à titre d'exemple, je vois quelqu'un comme Bergson qui écrit ce que c'est que le mystique chrétien catholique, et le mystique catholique dépasse toutes les autres mystiques, et on est en présence d'un homme parfaitement homme et qui dépasse. Mais personne le fait avec une philosophie qui n'est pas entièrement réaliste. Il cherche. Personne n'est sorti du positivisme. Faut pas l'oublier. Et il a découvert qu'il y avait l'âme, qu'il y avait la durée spirituelle. Et cela l'avait découvert, dépassé le positivisme pour entrer dans quelque chose de spirituel. C'est pour ça que Bergson reste un grand philosophe. Dans le sens de quelqu'un qui est tout proche de nous et qui a dépassé le positivisme. Il y a Bergson pour la langue française, il y a Whitehead pour la langue anglaise. Ils sont tous les deux des philosophes qui sont partis du positivisme, d'une science qui se voulait en sort, on découvre, ah, mais il y a des hommes qui vivent de ça de façon parfaite, les mystiques. Vous voyez, il y a quand même des appels, des appels de phare, des flashs pour nous, qui nous disent, mais là, il y a quelque chose. Et ce sont ce ne sont pas des chrétiens qui ont fait ça. Personne n'a fait ça avant d'être chrétien. Je crois que personne est mort chrétien et catholique. On ne sait pas s'il a été baptisé ou pas baptisé. Peu importe. Il est mort catholique. S'il n'a pas été baptisé, c'était parce qu'il ne voulait pas quitter son peuple au moment où il était attaqué, où il était rejeté. Alors ça peut se comprendre, ça. Ça ne se comprend pas pour un catholique, mais ça peut se comprendre quand on se met dans la situation de quelqu'un comme lui. Mais c'est très possible qu'il ait été baptisé secrètement et qu'il a demandé à la personne de garder le secret, que la personne a gardé le secret. On verra ça au ciel. Sa fille est devenue catholique et sa fille a dit qu'il y a eu une apparition de Marie. L'apparition de Marie qui a secoué énormément personne. Il a vu une femme passer. Elle est passée d'une chambre, d'une salle à l'autre. Personne n'était seul, sa fille était seule. Et personne n'aimait étonnamment sa fille qui était muette. Et qui était très très unie à son père. Elle est profondément et intellectuellement. Elle dit ouvertement qu'elle a vu Marie. Et c'est pour montrer que ce que nous faisons, c'est pour répondre à des appels. Et c'est pour répondre au grand appel de tous les jeunes d'aujourd'hui. Si au fond, en face des jeunes, vous dites il faut la foi, ils disent je ne l'ai pas. Devant un mur. Si au contraire, vous dites oui, nous cherchons l'absolu. Vous cherchez l'absolu, nous cherchons l'absolu, on le cherche ensemble. Quel est cet absolu? C'est le bonheur de l'homme. Et ce bonheur de l'homme demande le dépassement de l'homme. Parce que tant que l'homme n'a pas compris ce dépassement de l'homme, il n'est pas bien heureux. Et ce dépassement de l'homme, le Christ nous le montre. Donc, c'est pas une apologétique, c'est une vision philosophique sur le bonheur de l'homme. Mais je comprends très bien, il faut se poser ces questions, c'est pas commode du tout. Hein. Vous voyez, s'il n'y avait pas de philosophie, si je n'avais pas une éthique philosophique et une éthique religieuse, ce que je ferais, ce serait uniquement une description de l'extérieur. Ce serait déjà quelque chose. Mais grâce à mon éthique fondamentalement humaine, grâce à l'éthique religieuse, je peux faire que cette description soit plus qu'une description. C'est l'ouverture vers un dépassement de l'humain tout en restant humain. Un dépassement de la philosophie tout en respectant la sagesse philosophique. Alors continuons maintenant. La dernière fois, je vous rappelais rapidement, parce que je crois que c'est important d'y revenir chaque année, je vous rappelais que l'éthique philosophique, la réflexion morale, aujourd'hui, est en danger, en péril. Au fond, on voudrait supprimer la morale et libérer l'homme de « il faut » de Kant. Faut pas oublier, si Kant n'avait pas existé, Freud n'aurait pas existé. travail dans ce qu'il a d'intelligent s'oppose à ce « il faut » de ce qui est le surmoi. Le surmoi freudien, c'est « il faut ». Tu dois faire ça. Vous voyez ? Donc quelque chose qui vient de l'extérieur et qui s'impose à moi de l'extérieur et qui par le fait même me met en prison à l'égard du surmoi. Enfin, n'oubliez jamais cette petite dialectique freudienne qui est facile à comprendre. Le S allemand, le moi et le surmoi. Le S, c'est le donné premier pour nous, hein. En philosophie réaliste, on dirait le S, c'est la nature humaine. Mais le S est considéré comme, à la lumière de Kant, comme le noumen inconnu. Inconnu. C'est pour ça qu'on fait le neutre, le S. Ça. Ça français. Laisse. Le noumen inconnu. Petit enfant, qu'est-ce qu'il va devenir ? Je sais pas. Mais un paquet de chair, on voit pas l'âme. Un paquet d'instincts, d'une complexité infinie. Je me souviens, parlant à un psychanalyste, la simplicité de l'enfant, il s'est mis à éclater de rire. Mais mon père, la simplicité de l'enfant, il n'y a rien de plus complexe qu'un enfant. C'est un tas d'instincts. Le S, un tas d'instincts qui va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une complexité. Non, mais nous parlons de la simplicité de l'enfant. Hein. Mais c'est naïf pour un psychanalyste. C'est naïf. Alors quand il voit dans l'écriture qu'il faut revenir comme un enfant, vous comprenez le S, hein? Redevenez comme un imbécile qui ne sait pas ce qu'il fait. Ça veut dire ça, traduction. Il faut saisir ça, parce que, vous voyez, ça c'est la duperie des mots. Parce que quand je dis la simplicité d'enfant, je veux dire justement qu'il y a dans l'enfant une âme spirituelle. Et qu'il y a quelque chose qui est un reflet de Dieu, qui n'est pas encore abîmé. C'est vrai, il y a un reflet de Dieu, surtout l'enfant qui a été baptisé. Il y a la grâce, il y a un appel de Dieu. Mais même l'enfant qui n'a pas été baptisé, il y a quelque chose, il y a un appel, il y a une limpidité, une pureté. Pour un psychanalyste, absolument pas, c'est le S. Cette espèce de... Oui, le S, c'est pratiquement ça. Vous voyez, pour nous, c'est quelque chose de déterminé, fondamental, que je découvre. Pour eux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est le mur, le S, qui rebondit. Alors, le moi, c'est la construction de la personne en moi. Mais quand le surmoi est trop fort, le moi est étouffé. Et alors il y a le repliement sur soi et le refoulement. Le refoulement, c'est quand vous êtes en face du surmoi. Je simplifie, mais c'est au fond, dialectiquement, c'est comme ça. Le surmoi, c'est il faut, il faut. Je suis dans un monde intelligent. Il faut être intelligent. Mon petit, sois digne de tes ancêtres. Hein? Les ancêtres, un surmoi extraordinaire. D'autant plus extraordinaire qu'ils sont très ancêtres et qu'on ne sait rien sur eux. Alors c'est le surmoi. Il faut être comme ça. Tu es chrétien quand même, mais sois digne du Christ. Surmoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui s'aplatit comme ça, et on revient le surmoi. Et c'est vrai, il faut bien se dire, que l'éducation chrétienne, à partir du XVIIe siècle, impliquait un surmoi. toi, tiens-toi droit, on se tient, voyez, non, le jour. On dit, mais pourquoi? Parce que tout le monde a fait ça comme ça, avant. Alors, il faut prendre comme ça. Donc, le surmoi. Le surmoi est extrinsèque, c'est quelque chose qui n'est pas assimilé et qui s'impose. La couverture. Et alors, le moi, c'est au contraire ce qui est assimilé. Ce que j'ai assimilé parfaitement. Et alors, c'est le S qui se transforme en moi. Et la personne est là. Mais on doit lutter. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut donc un milieu qui permette l'éclosion du moi. Et je dois me défendre contre le surmoi. Alors, ça c'est le petit schème. Il faut se rappeler ça, parce que c'est le schème classique qu'il faut essayer de saisir. C'est intéressant, faut surtout pas le suivre. Surtout pas le suivre, parce que c'est vrai, c'est dialectique. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Parce qu'il y a un oubli complet de la nature humaine, de l'âme, de l'intelligence et de la volonté. Vous pouvez mettre ici l'âme, l'âme créée par Dieu. L'âme et l'intelligence, le point de vue de la volonté. Et le point de vue, donc, de l'intelligence. Donc, je cherche le fondement de l'éthique qui me permettra d'avoir une éthique humaine. Et je dis l'amitié. J'analyse tous les moments de l'amour d'amitié, ce que nous avons fait la dernière fois. Et je réfléchis en me disant, tous les actes volontaires sont présents dans cette analyse de l'amour d'amitié. Alors je reviendrai sur les deux actes particuliers, l'imperium et l'usage. Après le choix, il y a l'imperium. Il faut quand même voir un tout petit peu ce que l'imperium. Vous voyez, l'imperium, c'est pas l'imperium de l'extérieur, il faut, mais c'est moi-même qui me commande à moi-même. Donc c'est mon moi qui dit tu dois faire ça. La cloche sonne, c'est le surmoi. C'est évident, hein, un gros surmoi. La cloche sonne. Vous réagissez comment? Ah, c'est empoisonnant cette cloche. Travailler. Je commence à être intelligent, ça y est, je dois quitter. Je dois veiller, c'est empoisonnant, c'est idiot. Vous voyez, votre surmoi, vous attaquez le surmoi. Au contraire, dans le vaisseau, c'est la voix de Dieu. Et je dis, il faut quitter sa chambre, il faut obéir, il faut aller, et ainsi de suite. Et on voit très bien tout ça. C'est assez grossier, mais c'est vrai. On a ces réactions-là brutales. Et quand j'ai assimilé de l'extérieur ce que je devais faire, je dis tu dois faire ça. Que ce soit dans l'obéissance, dure, de lutte, peu importe, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et quand j'ai dit je veux faire ça, je l'ai assimilé. Quand tu dis, quand on se dit vers ça, c'est déjà un petit peu autre, mais quand on dit je veux vers ça, je le veux et je le fais par amour, je reviens au premier amour, je choisis cette opération et je veux vers ça. Et le cours commence à être intéressant, on tape très bien le surmoi. Je peux le considérer comme extérieur à moi. Je peux au contraire dire, mais oui, c'est bien, c'est convenu, on sait très bien, il y a ça.